Merci pour ta paix, Jésus. Merci pour ton repos. J'accueille ton repos dans mon cœur et je te demande d'installer ton repos dans le cœur de chacun d'entre nous. Que ta paix nous envahisse, nous environne. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Je te demande ton aide, je te demande ton onction. Et je te demande aussi de nous convaincre chacun d'entre nous en fonction de ce qu'on a besoin de recevoir de toi. Et Père, je te remercie parce que ton regard de faveur et d'amour est posé sur nous. Merci mon Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a marqué que pour accueillir le royaume de Dieu, faut être comme un petit enfant. Parce qu'un enfant, c'est pas compliqué. Non, ça, c'est pas un train. C'est un wagon. Donc, imaginez. Imaginez, je suis en train de dénicher un trésor que je dispose ici. Wow. Celui-là, il est plus lourd. Magnifique. Magnifique. J'ai fait une découverte là. Aïe, aïe, aïe. Et encore. SBB CFF, hein, c'est écrit dessus. Eh non, ça va faire plaisir à Jean, mais c'est pas à Jean. Ça va faire plaisir à Raymond, mais c'est pas à Raymond. Il n'y a pas de favoritisme, alors c'est pour tout le monde. Hein. Voilà. Donc, le royaume des cieux, il faut l'accueillir comme un enfant. S'il y a un enfant qui entre dans la salle, là, puis je lui dis, ben viens, viens, viens ici, occupe-toi un moment. Puis je m'en vais. Qu'est-ce qui va se passer? Je lui ai donné aucune consigne à part, occupe-toi un moment. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah! Un train, des wagons, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un wagon, il va regarder comment ça marche, et puis il va commencer à accrocher les wagons. Il va s'amuser avec. C'est aussi simple que ça. Enfin, je sais pas, il va pas s'amuser à jouer au quilles avec ou au foot ou à je sais pas quoi. Il va comprendre que c'est un train. Il va accrocher les wagons, puis ensuite il va le tirer, il va faire ses petits itinéraires, etc. Il va s'inventer des histoires. Enfin, voilà, c'est simple. Il va pas chercher midi à 14h. Alors voilà. J'espère que vous allez réussir à accrocher les wagons par rapport à ce que je vais vous dire, parce que ça veut dire que vous devez comprendre ce qu'il y a dans ma tête. Et ça, je pense que c'est un défi. Donc, le sujet de ma prédication aujourd'hui, j'aimerais poser quelques bases, des principes spirituels, des lois spirituelles. Mais c'est un sujet qui est vaste, c'est un sujet qu'il faut vivre, qu'il faut comprendre, qu'il faut intégrer à l'intérieur. Donc, voilà, c'est juste des petites bribes que je vous donne. J'espère que vous pourrez me suivre pour comprendre le principe. Mais ce n'est pas du tout exhaustif. Alors, dans la vie naturelle, il y a des lois physiques. Et les lois physiques, on ne peut pas y déroger. Par exemple, je ne sais même pas son nom, si c'est la loi de la fusion ou de je ne sais quoi, je ne sais plus, parce que ce n'était pas trop mon truc, les sciences. Mais si vous mettez de l'eau dans une casserole et que vous mettez le feu, il y a une loi physique qui va faire que l'eau, elle va chauffer. Si vous mettez de la chaleur, vous pouvez pas y déroger. Et il y a une loi physique qui va faire que l'eau, elle va s'évaporer au bout d'un moment. Vous ne pouvez pas y déroger. Si vous mettez de l'eau dans un congélateur, au bout d'un moment, elle va se gélifier. Vous ne pouvez pas y déroger. Il y a une autre loi qui est bien connue. Si je prends ce wagon. Que je compte jusqu'à 3. Et que je le lâche, il y a Denis qui va faire un saut sur sa chaise, qui va changer de couleur, qui va... Enfin bref, parce que il va tomber. Mais non seulement il va tomber, selon... Si je le lâche là, ça va peut-être aller. Si je le lâche là, il y a une loi qui dit qu'il va s'écraser un peu plus fort, puis il sera amoché un peu plus. On peut pas y déroger. On ne peut pas. Eh bien, tout ce qui existe sur la Terre a déjà existé. Tout ce qu'on voit autour de nous, ça nous enseigne les choses spirituelles. Donc si on a des lois physiques sur la terre, c'est parce que d'abord, il y a des lois spirituelles. et les lois spirituelles, on ne peut pas y déroger. C'est impossible. Que l'on soit chrétien ou pas, qu'on connaisse ces lois ou qu'on ne les connaisse pas, ça ne change rien. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Parce qu'en fait, dans ma compréhension des choses, c'est pour ça que j'ai pris un train, dans ma compréhension des choses, pour être efficace dans notre vie spirituelle, il faut savoir accrocher les wagons. C'est-à-dire que si on connaît les lois, les vérités, les principes spirituels, on va pouvoir accrocher les wagons, on va pouvoir faire des liens entre une vérité et une autre, entre un verset et un autre. On accroche les wagons, ça nous fait un convoi, et puis là, on peut avancer et être efficace. Et je vais prendre un texte de la parole, je vais prendre une histoire qui m'a beaucoup interpellée pendant des années, que j'ai un petit peu plus décortiquée, puis qui m'a donné des éléments de réponse, où on a deux personnages qui ont accroché les wagons dans leur réalité. Ce qui fait qu'on peut s'identifier. Donc, pour illustrer, je vous donne juste les références, hein, mais je vais vous le lire. La référence que je vous donne, c'est ce que je vais lire, c'est Marc 5, 21 à 43. Mais on a les mêmes textes dans Matthieu et dans Luc. En fait, dans les évangiles, on retrouve plein d'histoires. Il y a des évangiles, on trouve une histoire seulement dans un seul évangile. Il y en a, on les trouve dans les trois ou dans les quatre, ça dépend. Mais des fois, au niveau chronologique, il y a des petites différences. Des fois, on voit une histoire ici, il se passe des éléments, on voit une histoire ailleurs. Ça dépend. Et cette histoire que je vais vous lire, eh bien, dans les trois évangiles où elle est relatée, il y a en fait deux histoires qui sont totalement imbriquées. On ne peut pas les dissocier l'une de l'autre. C'est l'histoire de la femme qui avait une perte de sang et de Jaïrus, qui avait une fille de 12 ans qui se mourait. Vous avez nulle part dans la Bible l'histoire de la femme qui a une perte de sang et ailleurs l'histoire de Jaïrus. Et même dans le passage, quand on le lit, il y a un petit bout Jaïrus, un petit bout la femme et de nouveau un petit bout Jaïrus. Ces deux histoires sont complètement imbriquées. En fait, elles sont indissociables. Alors, pour commencer, je vais vous lire dans Marc 5, 21 à 43. Il faut vous accrocher, c'est un peu long. Dans Matthieu, c'est beaucoup plus court, mais je me suis dit, je vous lis directement la version où on trouve le plus de détails. Comme ça, vous devez repérer tous les détails. Donc, accrochez-vous. C'est parti. Jésus regagna en barque l'autre rive où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jaïrus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée, et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand les gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient, qui poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, Mais elle dort. Qu'il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit, « Talitha kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt la jeune fille se leva, se mit à marcher car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne manger à la jeune fille. J'ai toujours été impressionnée parce que j'ai toujours compris, en tout cas avec ma tête, la puissance qui s'est dégagée quand cette femme, par derrière, elle est juste allée toucher le bord du vêtement de Jésus. Il y a eu une bombe de puissance qui est tombée en elle. C'est tellement puissant, elle a compris, elle a trouvé une clé, elle a ouvert, elle a utilisé sa clé et à peine elle a touché Jésus, paf, guérie sur l'instant. Il y a une telle puissance, je me disais, mais moi je veux ça. Je veux ça pour ma vie, je veux ça pour mes compréhensions, je veux ça pour mon corps, je veux ça pour mon âme. Mais comment? J'ai pas la foi. Alors je suis allée un peu regarder et j'ai trouvé des éléments. Et je me rends compte que dans ma vie, il y a des domaines où j'ai réussi, j'ai trouvé cette foi-là. J'ai touché le bord du vêtement de Jésus et ça s'est ouvert. Et il y en a d'autres, et ben j'ai encore du travail. Mais je suis en chemin. Donc si on prend cette histoire, nos deux protagonistes, la femme à la paire de sang et Jaïrus, on dirait que tout les oppose. Mais il y a énormément de similitudes. Dans ce qui les oppose, déjà on a l'histoire d'un homme et d'une femme. L'homme, c'est un homme public. Il est connu. On connaît sa fonction, son métier. Il est chef de la synagogue. Donc c'est quelqu'un qui est en vue. C'est quelqu'un qui est respectable. C'est quelqu'un qui est respecté. C'est quelqu'un qui a un haut rang dans la société. La femme, elle, n'est pas publique, elle est cachée. Elle est cachée, elle est anonyme. Elle est tellement anonyme qu'on ne connaît même pas son prénom. Pendant tout le temps, on parle de la femme ou de Jaïrus. Elle n'a même pas de prénom, cette pauvre femme. Elle est cachée. Elle est dans une pauvreté sociale pas possible. Elle a un problème d'impureté, alors elle est rejetée. Et son problème d'impureté, c'est à cause de la loi de Moïse. Cette loi qui a été donnée pour comprendre notre état de pécheur, mais pour comprendre cet état de pécheur, c'est une loi qui a été donnée dans l'Ancien Testament pour plein de choses, plein de détails de la vie. Et ça disait que, par exemple, une femme, pendant son indisposition, est impure pendant un certain temps, mais après, il y a la purification par plein de choses. Enfin, je ne veux pas vous parler de ça maintenant, mais il y a des périodes où elle est impure. Et la problématique avec la femme dont on parle, qui avait une perte de sang depuis 12 ans, elle avait peut-être un fibrome, un problème hormonal, on ne sait pas ce que c'était. Mais ça veut dire que nuit et jour, pendant 12 ans, elle était en état d'impureté, donc elle n'osait rien toucher, parce que tout ce qu'elle touchait était impur, donc on lui laissait juste son environnement, puis qu'elle se débrouille de pas trop aller en toucher ailleurs. Chaque fois qu'elle touchait une personne, ça contaminait l'autre personne, donc un minimum de personnes la touchaient, ne serait-ce que pour lui tendre la main. C'était quelque chose de terrible. Donc vraiment, ces deux personnes étaient dans une condition totalement opposée. Mais, dans la similitude, ils avaient tous les deux un problème. Ils avaient tous les deux besoin d'un miracle. Ils avaient tous les deux besoin d'une intervention surnaturelle. Et là encore, il y a des contrastes. La femme avait un problème interne. L'homme avait un problème externe. Le problème de la femme, il était dans ses entrailles. C'était dans sa chair. C'était dans son corps. C'était même dans son âme. Ça la handicapait physiquement, relationnellement, socialement, émotionnellement, relationnellement. Enfin, ça la handicapait, mais c'était dans son intérieur qu'elle avait ce problème-là. Et chaque fois qu'on lit, enfin, c'est ce que je me dis dans ma tête, chaque fois qu'on lit cette histoire, c'est une femme avec une perte de sang, donc je me dis que pour un gars, ça doit être un peu difficile à s'identifier. On peut tous avoir des problèmes internes, qu'on soit un gars ou une femme. Si vous allez dans Lévitique 15, je vous mets la référence parce que je pense que ça vaut la peine d'aller le lire. Je ne vais pas vous le lire maintenant parce que je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Mais il est question de l'impureté de l'homme. Et c'est aussi pour une histoire d'écoulement biologique. Je m'arrête là parce que je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Mais autant les hommes que les femmes, on peut avoir des périodes d'impureté. Alors, ayez du courage, puis une fois, allez voir juste ça, juste comme ça en passant, puis après, vous passerez plus loin. Ça, c'est pour vous dire quel est ton problème aujourd'hui, ton problème interne, que ce soit un péché, que ce soit un sujet de honte, parce que cette dame, elle était dans la honte. Qu'est-ce qui est caché en toi? Qu'est-ce qui est un sujet de honte? Qu'est-ce qui s'accroche à toi, qui ne veut pas lâcher? Qu'est-ce qui te pourrit la vie? Qu'est-ce qui te cause des problèmes relationnels, de comportement? Qu'est-ce qui te handicape dans ta vie de tous les jours? C'est à ça qu'il faut penser. Que tu sois un homme, une femme, c'est égal. Dis-toi, c'est quoi le truc qu'il faudrait que Jésus puisse résoudre là maintenant avec un miracle? Paf, c'est fait. Ça, c'est le problème interne de la femme. Jaïrus, lui, il a un problème externe. Ça touche aussi ses entrailles. C'est le fruit de ses entrailles qui est concerné. C'est sa fille de 12 ans. La femme, elle souffre depuis 12 ans. Lui, il chérit sa fille depuis 12 ans. Son problème, il est externe parce qu'il doit trouver un miracle pour autrui. Ce n'est pas pour lui-même. Il y aura des conséquences indirectes pour lui, mais c'est pour autrui, son problème. Donc, tous les deux vont aborder les choses de façon différente. Mais ils ont besoin, tous les deux, de comprendre les lois spirituelles, les principes, pour commencer gentiment à accrocher les wagons, pour pouvoir aller sur les rails et arriver à destination. Il faut qu'ils comprennent les mécanismes spirituels pour pouvoir les utiliser. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se préparent. Par exemple, la femme. La femme, c'est pas en plein milieu de la foule que tout à coup, elle se dit « Ah tiens, Jésus, ah ben, si je vais le toucher, je vais être guérie. » Je pense qu'on est assez souvent comme ça. On va à un culte, puis tout à coup, il y a une parole, puis on se dit « Ah ouais, c'est pour moi. » Alors des fois, oui, on la reçoit. Mais des fois, si on s'était préparé avant, ce serait bien plus efficace. La femme, elle s'est préparée à la maison. Il y a marqué, au verset 27, « Elle entendit parler de Jésus. » C'est parce qu'elle a entendu parler de Jésus qu'elle a pu se préparer. Donc, elle a été attentive à tout ce qui concerne Jésus. Elle a entendu dire qu'il guérissait, qu'il délivrait, qu'il était bon, qu'il enseignait, tout le bien qu'il faisait. Elle a dû entendre qu'il ne faisait pas de mal, que chaque personne qui s'approchait de lui pour une guérison, il la recevait. Donc, en fait, un de ses premiers wagons dans cette situation-là, c'était, et ça peut être pour nous, la méditation de la parole. Apprendre à connaître Jésus et tout ce qui concerne Jésus ou tout ce qui concerne mon problème et la résolution de mon problème, chercher dans la parole. Qu'est-ce que la parole dit à propos de ça? Et elle a fait des découvertes. Donc son wagon, c'est déjà la méditation, le recueil de données, avoir de plus en plus d'informations, de plus en plus de connaissances. Du coup, elle a compris que Jésus pouvait la guérir puisqu'elle a fait ce recueil de données. Et ça lui a permis de proclamer les choses aussi. Ça lui a permis de dire, ben, si je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Si elle proclame quelque chose, c'est parce qu'elle connaît cette chose qu'elle proclame, parce qu'elle l'a cherchée. Ça, c'était le premier wagon. Et donc, ce qu'elle comprend aussi, c'est que la guérison, ça ne se trouve pas dans la main des hommes, mais que la guérison, elle se trouve en Jésus. Parce qu'elle est déjà allée chez les médecins. Elle a tout essayé, elle a dépensé tout son argent, puis même ça allait pire. Donc elle a perdu du temps, elle a perdu de l'énergie à aller chercher sa solution au mauvais endroit, plutôt que d'aller directement à la source. Elle a compris, alors là elle change. Elle dit « Ok, j'ai fait faux, maintenant je me reprends. » Donc elle a commencé à nourrir sa foi. Et c'est là que je dirais qu'il y a un deuxième wagon. Elle a compris Romains 10, 17. Et Romains 10, 17, c'est une loi spirituelle qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Elle a compris que la foi vient de ce qu'on entend. Ça, c'est une loi spirituelle pour ceux qui croient et pour ceux qui ne connaissent même pas le Seigneur. À force d'entendre des choses, quand on voit des pubs, par exemple, qu'on nous dit des slogans tout le temps, on finit par le croire. Et c'est comme ça qu'on commence à croire que ce qui est mal est bien, que ce qui est bien est mal, etc. C'est parce qu'à force d'entendre les choses, on y croit. Et pour finir, on les applique. C'est une loi spirituelle. Donc, la femme, elle a compris que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à confesser. Si je touche le vêtement de Jésus, je serai guérie. Si je touche le vêtement de Jésus, je serai guérie. Il faut que je touche ce vêtement parce que je serai guérie. Je serai guérie parce que j'aurai touché le bord du vêtement. Elle se l'est répété, elle se l'est dit, elle s'en est nourrie. La foi vient de ce qu'on entend, donc elle a dit les choses pour les entendre. C'était audible, c'est entré dans ses oreilles, ça a nourri sa foi. C'est une loi spirituelle. Et ça, elle a pu le faire parce qu'elle sait que si elle touche le pan du vêtement de Jésus, elle sera guérie, parce qu'elle a vu que Jésus y guérit, parce que Jésus est la guérison, parce que Jésus est la solution, parce qu'elle a trouvé ça. Donc elle a pu, c'est là que ça se corse, accrocher le wagon. Ça commence à prendre forme. Elle a compris un autre principe, et ça on le trouve dans la Genèse, par exemple, c'est qu'on est fait à l'image de Dieu. Donc on est comme Dieu. Et si on lit toujours la Genèse, comment est-ce que Dieu a créé les choses? Par sa parole. La parole est créatrice. Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, ça veut dire que si elle est faite à l'image de Dieu, eh ben, sa parole est créatrice aussi. Donc, quand elle commence à dire « Si je touche le bord du vêtement de Jésus, je serai guérie », elle commence à créer une réalité par sa parole, par sa voix. Et ça, c'est un sacré wagon. La parole, avec notre parole, on peut créer des bonnes choses, on peut créer des moins bonnes. C'est une loi spirituelle. On peut tuer quelqu'un avec sa parole, c'est une loi spirituelle. Mais elle, elle l'a utilisée à bon escient. Donc, elle confesse. J'ai demandé 3 wagons à Denis, j'aurais dû en demander 18, mais j'avais que 2 tables, donc voilà. Elle a aussi compris un principe vraiment important qui se trouve dans Malachie. Malachie 3, 20a. C'est ce verset dont on s'est inspiré pour faire le chant qui dit « Tu es le roi de gloire, sous tes ailes est la guérison. » Elle a compris ça. Elle a compris « sous tes ailes est la guérison ». La guérison, elle est sous les ailes de Jésus. On va juste faire un truc. Tu peux te lever, Reed, s'il te plaît. Tu te mets debout, là, puis tu m'attends. Si, je peux dire que si Reed, c'est Jésus, puis moi, je suis moi, c'est, de toute façon, c'est prophétique, parce que le mari est la femme, donc je peux le faire avec lui. Si je sais que la guérison est sous les ailes de Reed, ben je le sais avec ma tête. J'ai un wagon tout seul. J'ai mis ma connaissance dans ce wagon. Je sais que la guérison est sous les ailes de Reed. Mais, vous avez vu? J'ai rien besoin de dire. Il a déjà ouvert ses bras et j'arrive sous ses ailes. Là, c'est plus efficace. Là, je la reçois, la guérison. Mais si je reste ici et puis je dis la guérison, elle est là. Eh ben, il ne va rien se passer. Elle est là, je le sais, c'est vrai. C'est une loi spirituelle, enfin, c'est une vérité spirituelle. Mais moi, je suis toujours là et puis mon problème, il n'est pas résolu. Mais si je me mets en marche et que je vais là, les choses se passent. Donc, qu'est-ce qu'elle a dû faire, cette dame? Elle a dû se mettre en route. C'était pas rien dans sa condition. Je vous ai donné juste, si vous voulez garder les références. Donc voilà, ça c'est pour la femme. C'est pour la préparation de cette femme. Elle a accroché ses wagons. Jaïrus, lui, il est beaucoup plus discret dans sa préparation. On n'a pas tellement d'informations de comment est-ce qu'il s'est préparé. Mais on peut comprendre qu'il s'est tout de même renseigné parce qu'il était au bon endroit au bon moment. Et puis, si vous réfléchissez, d'abord, moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, ouais, mais attends. Sa fille, il y a plusieurs mots qui sont utilisés selon dans quel évangile on le lit. Il y a un endroit, il dit, ma fille est morte. Il y a un autre endroit, il dit, elle est à l'extrémité. Elle est en train de mourir. Donc, ce gars, Jaïrus, il a sa fille de 12 ans qui est en train de mourir ou qui est morte. Et au lieu d'être avec elle, de l'accompagner dans ce passage, d'être avec son épouse, sa famille, il est dans la foule avec tout le monde, puis il attend Jésus. Je me suis dit, mais ça va ou bien? Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait au milieu de cette foule? Il devrait être avec sa famille. Et en fait, je me dis, mais c'est ça, sa préparation. Il avait une situation désespérée, peut-être aussi qu'il a fait appel au médecin, on ne sait pas. Mais en tout cas, s'il l'a fait, ce n'était pas efficace. Et il est allé pour être au bon endroit au bon moment, parce qu'il a compris quelque chose. Il savait que la guérison, elle était en Jésus, puis qu'il fallait aller jusqu'à Jésus. Il était tiraillé. Il était tiraillé, c'est ça le principe de l'intercession. Intercession, c'est se mettre entre. Il était entre sa fille qui était en train de mourir et entre Jésus. Il s'est mis au milieu pour aller amener Jésus jusqu'à sa fille. Il a dû quitter sa fille, il a dû quitter tout ce que lui pouvait mettre en place, toutes ses sécurités, pour aller vers Jésus. Et lui, il avait autre chose que la femme. Il avait son prénom. Jaïrus. Jaïrus, ça veut dire celui que Dieu éclaire, ou celui qui est éclairé par Dieu. Donc Jaïrus, c'était un chef religieux, un pharisien. Les chefs religieux, ils étaient opposés à Jésus. Ils cherchaient toujours à lui rentrer dans le cadre, à lui tendre des pièges. Et tout à coup, lui, paf, il a reçu une révélation. Si Jésus vient et touche ma fille, elle sera guérie. Les révélations, on peut les recevoir, comme la femme, en passant du temps dans la parole ou dans la prière, de plusieurs manières, il y a plusieurs manières, ou bien, même sans l'avoir attendue, paf, elle peut arriver. Et je pense que Jaïrus, son nom était prophétique. Je pense qu'il a reçu une révélation. C'est ce qui lui a permis de dire, ok, je quitte ma fille, mais c'est sous contrôle, parce que je vais voir Jésus, parce qu'il va la toucher, et elle sera guérie. Je prends ce risque. Donc, ces deux personnes ont mis leur foi en action. Et il fallait qu'ils trouvent la loco, parce que ce n'est pas le tout d'avoir trois wagons. Mais trois wagons tout seuls, même s'ils sont accrochés, ils ne vont pas très loin. Il fallait la loco. Et la loco, c'est cette loi spirituelle qui dit que rien n'est impossible à celui qui a la foi, que même Dieu ne peut pas résister à la foi. Même Dieu ne peut pas résister à la foi de quelqu'un. Et ça, vous avez les références dans Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est pas « Seigneur, déplace », mais si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il ne doute point dans son cœur, il n'est pas question de la tête, mais croit ce qu'il dit arrive, il verra cette chose-là s'accomplir. Et vous avez à peu près la même chose dans Matthieu. Mais Jésus, il rajoute, rien ne vous serait impossible. Si on a cette foi qui déplace les montagnes, pas la foi de la tête, mais si on a mis tout ce mécanisme où on peut dire, je sais que je sais que je sais que je sais, rien ne nous est impossible. Et ça, c'était leur loco. Voilà. Donc, on peut voir que tous les deux se sont préparés, tous les deux ont compris les principes spirituels, les lois spirituelles, les vérités spirituelles, et ils ont commencé à accrocher les wagons. Ça leur a permis d'être déterminés, d'aller droit devant, de ne pas quitter l'objectif des yeux. Mais alors, la femme, elle a dû sortir de chez elle. Et ça, c'était compliqué, parce qu'elle était impure. Donc, il ne fallait pas qu'elle soit vue, il fallait qu'elle reste cachée. Parce que si elle était découverte, elle risquait de se faire juger, mais peut-être même lyncher. Je ne sais pas ce qui pouvait se passer pour elle. Donc, il fallait qu'elle reste cachée. Elle a dû se planquer, elle a dû s'emballer dans des voiles, des couvertures, des machins, pour qu'on ne la reconnaisse pas. Il fallait qu'elle mette toutes ses craintes de côté. Il fallait qu'elle... Mais droit devant, droit devant. Il ne fallait pas qu'elle écoute quoi que ce soit, à gauche ni à droite, ni qu'elle en parle à qui que ce soit. Parce que si elle en avait parlé, on aurait pu, par une simple parole, briser sa foi. Il fallait qu'elle reste cachée dans tout, qu'elle dépasse les circonstances. Pour Jaïrus, c'était autre chose, c'était un homme public, mais il fallait aussi qu'il se mette en route. C'était un religieux, un chef de la synagogue, tout le monde le connaissait et ses collègues étaient là. Donc lui, il risquait d'être jugé aussi, il risquait d'être banni, il risquait d'être déchu de sa fonction. C'était des sacrés risques. C'était un homme public jusqu'au bout, il ne pouvait pas se cacher, il ne devait pas se cacher. Alors tous les deux, ils n'ont pas regardé aux circonstances. Ils ont juste su que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ils savaient que ça allait arriver. Ils ont fait des convenances, etc. Ils sont restés fixés sur l'objectif. Ils ont évité d'accrocher les mauvais wagons. Toutes les lois qui disent des choses contraires si on les applique. Ils ont mis que les bons wagons. Ils se sont pas arrêtés non plus à l'opposition. De l'opposition, il y en avait à l'intérieur et il y en avait à l'extérieur. Il y avait l'opposition de tout ce qu'on a dans la tête et il y a l'opposition des hommes. Ils sont partis droit devant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La femme, elle a atteint son but par derrière, toujours tout en discrétion, par derrière. Elle a rien dit, elle a même rien dit à Jésus. Elle a juste mis sa foi en action. Elle a même pas dit « Seigneur, s'il te plaît », même pas. Elle a que utilisé sa loco, c'est une question de foi. C'est la seule chose qu'elle a faite. Et quelle puissance! Elle a refusé de rester dans son piteux état. Elle allait jusqu'au bout. Elle a refusé de répondre à ce proverbe qui dit « Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à la bouche. » C'est violent, hein? Elle ne s'est pas arrêtée à ses connaissances. Puis après, elle dit « Oh, mais Jésus ne m'a pas guéri. » Oh, mais Jésus, non. Oh, mais je vais prier pour ça. Puis, oh, mais on est tous comme ça. On connaît tous ça. Elle a dit, je vais aller plus loin. Je vais prendre ce qu'il me faut pour que je puisse dire, je sais que quand je toucherai son vêtement, ben, paf, la puissance va arriver. Elle a allé sous les ailes de Jésus. Elle a couru jusque sous les ailes de Jésus. Et Jaïrus, lui, il a atteint son but aussi, mais publiquement, par devant. Jaïrus, il a utilisé une autre façon de faire. Il s'est prosterné devant Jésus, il a commencé par l'adorer. Il s'est jeté à ses pieds. Ça veut dire qu'il a reconnu son autorité, sa seigneurie, sa grandeur, sa puissance. Il a commencé par l'adoration. Ça, c'est un principe pour l'intercession. Il a répandu son cœur. « Ma fille est en train de mourir !» Il a exposé son problème. Il a tout étalé devant Dieu. Et ensuite, il l'a imploré. Il a dit « Viens ! Viens !» Et il a confessé sa foi, parce que si tu touches ma fille, elle sera guérie. Il a adoré, il a répandu son cœur, il a exposé son problème, il a imploré et il a confessé sa foi. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a répondu à sa foi, il y est allé, il a touché la fille, elle a été guérie. Mais peu de temps avant, il y a un officier romain qui a dit, mais te déplace pas, dis juste un mot, elle sera guérie, mon serviteur sera guéri. Et Jésus, il répond à la foi de la personne. Il dit, ok, je me déplace pas, je dis un mot, puis il est guéri. Jésus répond en fonction de notre foi. Jaïrus, il avait la foi, mais seulement si Jésus, il allait jusqu'à sa fille. Mais Jésus, il répond à cette foi-là. Et l'opposition externe est arrivée. Ta fille est morte. Ça, c'est le genre de choses où il faut se boucher les oreilles. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alors il a bouché ses oreilles. N'importe une palmette. Culpabilité, t'as aucun mérite, laisse tomber, l'accusateur des frères qui s'en mêle. Il faut se boucher les oreilles. Jaïrus, il est parti trop devant. Mais dès ce moment-là, Jaïrus, il avait fait tout son cheminement. Alors Jésus intervient et dit, ne crains pas, crois seulement. Et l'exaucement arrive. Maintenant, c'est bien beau d'avoir un convoi. Il faudrait peut-être mettre le train sur les rails. Si vous ne mettez pas le train sur les rails, un wagon dans le champ, franchement, c'est moyennement efficace. Hein? Bon, voilà, je ne suis pas très douée, mais vous avez compris le principe. Quand vous mettez le train sur les rails, c'est que vous avez accroché les wagons, vous vous mettez en route, vous entrez dans le processus et vous allez jusqu'au bout. Et comme je vous disais, il n'y a pas une loi spirituelle. Il n'y a pas un problème. Mais tout fonctionne comme ça. Si vous regardez la carte du réseau ferroviaire de Suisse, il y a plusieurs destinations, il y a plusieurs lignes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut utiliser les lois spirituelles, mais pour chaque domaine, vous pouvez en trouver une différente. Et les versets, ils sont infinis dans la parole. Donc, essayez de les trouver. Trouvez votre train, trouvez votre convoi, trouvez ce que c'est votre loco, les wagons qui constituent le convoi. Et comment est-ce que vous devez mettre ce train sur les rails? Comment vous mettez votre processus en route pour arriver jusqu'au bout? Que ce soit pour votre propre vie, que ce soit pour votre entourage, ou que ce soit pour la vie d'église. Et je vais m'arrêter là, mais je veux vous dire qu'un jour, on aura des nouveaux locaux. Ouais. Un jour, on aura des nouveaux locaux pour être une bénédiction encore plus efficace pour notre ville, pour cette région, pour pouvoir porter plus de fruits, pour pouvoir se répandre. Mais on les aura parce qu'on aura répondu à des lois spirituelles, à des principes spirituels qui vont faire qu'on va aller d'étape en étape, on va décoder c'est quoi la prochaine étape pour accrocher les wagons, trouver notre locomotive, peut-être qu'il y aura plusieurs trains, mettre tout ça sur les rails et puis ensemble on va y arriver. Et chaque département de l'église sera concerné. Chaque département. On aura tous notre train. Et à un moment donné, on va tous. Ça fera ni bon selon le train. Et puis, enfin bref. Voilà. Je m'arrête de jouer. OK. Je vais terminer en priant. J'hésite à vous mettre juste un dernier verset. Mais il ne faut pas hésiter. Un des mauvais wagons, c'est ça. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Chaque fois que vous dites « j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur de ci, j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur d'avoir mal, je vais faire ça, j'ai peur d'avoir mal. Ben, » pour finir, vous avez mal parce que la foi vient de ce qu'on entend. Quand on craint quelque chose, on commence à le confesser, à le proclamer. Ça, c'est un mauvais wagon. C'est un wagon qui a les freins sur les roues et puis qui freine tout le convoi ou qui le fait dérailler. Et la suite du verset, « ce que désirent les justes, leur est accordé. » Choisissez ce qui va sortir de votre bouche. Choisissez. Ok, je vais terminer en priant. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour la richesse et la puissance qu'il y a dans ta parole. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as donné les outils, les clés, les moyens de pouvoir aller chercher dans le ciel les choses dont on a besoin pour les amener sur la terre. Tu nous as donné des solutions. Parfois, tu agis par grâce et paf, tu fais un miracle auquel on ne s'attendait même pas. Et parfois, tu nous demandes de maturer. Il y a toutes sortes de manières de nous approcher de toi, Jésus, mais à chaque fois qu'on applique ce que tu dis, tu es là. Toujours fidèle, tu ne changes pas. Merci, mon Dieu. Je te demande, Saint-Esprit, de faire ton cheminement dans nos cœurs pour que chacun individuellement, mais en Église aussi, on puisse commencer à déceler, à discerner, trouver, dénicher ces lois spirituelles et les mettre en application pour tous les domaines qui le nécessitent. Merci pour ton aide, Seigneur, et sois béni. Dans le nom de Jésus. Amen.